J'étais pas correspondante pour Mediapart.
Je suis au Festival du film historique de Pessac, dans le cinéma Jean Eustache, avec Aïdé Sabéran. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que je n'ai pas estropié votre prénom.
Très bien.
Aïdé, j'ai été bien sûr googlée et j'ai vu que ça voulait dire celle qui est propice à l'écriture, au verbe, aux mots, ou qui aime s'exprimer, que ça soit par écrit. Oui, oui.
C'est ce qu'on vous a dit.
On m'a pas dit, c'est ce que j'ai lu dans l'étymologie du prénom.
J'aimerais bien savoir, parce que mon père m'a toujours dit que ça voulait dire celle qui suit le bon chemin. Donc vous voyez.
Mais alors, d'après.
Ça me va très bien.
Voilà. En tout cas, vous suivez le bon chemin dans l'écriture ou l'expression orale. Là, vous travaillez pour un nouveau média hebdo. On est venu vous chercher. Auparavant, vous étiez correspondante pigiste pour Libération Nord-Pas-de-Calais, la concurrence, et pour Mediapart. Expliquez-nous ce nouveau média dans lequel vous vous trouvez maintenant.
Alors, c'est un hebdomadaire, comme son nom l'indique. Il n'y aura pas de pub. Et on a un projet très grand public et très tourné vers les lecteurs. C'est-à-dire que on a une personne qui est attachée à la rédaction en chef et qui se consacre exclusivement aux relations avec les lecteurs. On va leur demander de critiquer notre journal, d'échanger avec nous, éventuellement même de nous proposer des sujets, de nous alerter sur des choses. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent s'inscrire sur une sorte de liste pour qu'on puisse aller dormir chez eux quand on part en reportage en France. Voilà, donc il y a déjà des gens qui se sont proposés. Voilà. C'est une aventure qui commence en janvier 2018. Et là, on est déjà en train de travailler. Il y a le numéro 0 qui est imprimé mercredi soir.
Et il y a des représentants de la rédaction dans les régions, contrairement à la plupart des titres parisiens, français, où c'est centralisé.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir les rejoindre. Donc moi, je reste basée à Lille. Et eux, ils se disent, en fait, on est trop parisiens a priori. On n'a pas envie de nous enfermer à Saint-Germain-des-Prés, parce qu'ils sont... C'est là qu'ils se situent. C'est des gens qui sont issus de la revue 21, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry. Et donc, ils ont peur d'être trop parisiens. Donc, ils se sont dit, on va faire appel aussi à des gens qui sont en région, qui sont ancrés dans leur région, qui sont déjà sur le terrain, en quelque sorte. Donc, il y a quelqu'un à Lyon, il y a quelqu'un à Marseille, il y a moi à Lille, il y a quelqu'un à Lorient, et puis il y a d'autres gens qui sont en phase de recrutement. Et l'idée, c'est qu'on ne sera pas des correspondants, on sera des gens qui seront ancrés dans notre région, mais je pourrais tout aussi bien aller en Italie si j'ai envie de faire un papier sur les migrants ou en Grèce.
Voilà. Et en fait, on a vu au fil des années que vous avez beaucoup écrit abondamment sur les migrants, en particulier cet article « Saint-Gat à la jungle du Nord-Pas-de-Calais ». Vous connaissez bien la réalité des migrants. Malheureusement, ça ne s'améliore pas. On a vu récemment cette terrible vidéo de cette journaliste américaine qui montrait une vente aux enchères des réfugiés pris en otage et vendus comme des esclaves en Libye. Quelle est votre opinion actuellement sur ce qui peut améliorer leur situation? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir?
La seule chose qui puisse améliorer leur situation, je pense, c'est de fluidifier le passage des frontières, c'est-à-dire d'organiser... Alors, l'ouverture totale des frontières, c'est peut-être pas très réaliste tout de suite. Ça doit pouvoir s'organiser. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de possibilités actuellement pour les migrants de déposer des demandes d'asile dans le pays limitrophe, dans le pays qui est juste à côté de celui qu'ils ont quitté, devrait pouvoir leur permettre de déposer une demande d'asile quelque part en Europe, par exemple. Et c'est archi exceptionnel, ce genre de situation. Et d'ailleurs, le HCR, c'est pas des grands révolutionnaires, le HCR, mais eux-mêmes le réclament. Donc il faut organiser des passages légaux pour éviter le trafic, pour éviter le racket, pour éviter la violence, cette extrême violence, et pour éviter les morts en mer. Voilà, et puis à Calais, il y a aussi du trafic, et à Calais, il y a aussi des gens qui meurent en essayant de passer. C'est vraiment tout près de nous.
Mais là, vous parlez de peut-être faire des filières légales. à travers les pays. On voit bien que l'attitude parmi les pays de la communauté européenne est très diverse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, peut-être trop, et qui maintenant se retrouvent un petit peu confrontés à la réaction de la population. Je pense à l'Allemagne. Et puis il y a ceux qui, au contraire, ont fermé les frontières, ont mis des barrières, des miradors, des barbelés, comme à une certaine époque, la Hongrie, la Pologne. Donc c'est quand même très... ce n'est pas uniforme. Il y a des disparités complètes.
Oui, c'est pas uniforme, mais c'est pas tellement étonnant. C'est-à-dire qu'il y a en Europe des pays qui ont une histoire d'immigration forte et des pays qui n'en ont pas. Alors, je trouve que c'est plus juste de comparer, par exemple, deux pays comme la France et l'Allemagne plutôt que de comparer l'Allemagne et la Hongrie. Parce que les Hongrois, pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Mais je trouve très gênant pour la France qu'elle soit aussi peu moteur, en fait, dans cette crise, qui devrait pas être une crise, en réalité. On est quand même des grands pays, des pays riches. On devrait pouvoir organiser les choses. Or, si on regarde les chiffres, si on regarde trois années... 2014, 2015, 2016, et qu'on compare trois pays, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, vous avez dans cette période-là, en Angleterre, 0,5 demandeurs d'asile pour 1000 habitants pendant les trois années consécutives. C'est-à-dire que malgré les événements internationaux, l'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne n'a pas bougé. Pareil en France. On a en France 1 pour 1000 en 2014, en 2015, en 2016. En 2016, on fait un petit effort et on est à 1,2 pour 1000. En Allemagne, on passe de 2,5 à 5,5, puis à 8. Et bien sûr, Mme Merkel actuellement a quelques ennuis. Mais Mme Merkel, elle a eu quand même le courage de prendre ses responsabilités. Je pense que si elle a des ennuis, c'est parce que nous n'avons pas eu ce courage-là. Et c'est quand même pas si compliqué que d'intégrer, quelques centaines de milliers de gens. Les Allemands sont arrivés à 1 million et nous, on n'a pas dépassé 70 000, 80 000. Et il y a un problème. Voilà, moi je trouve que la France ne fait pas sa part, et la Grande-Bretagne non plus d'ailleurs. La cohérence
d'une nation, etc. Et on voit bien que quand même la majorité des migrants viennent de pays en guerre. On pense à l'Irak, on pense à la Syrie, qui est un chantier apparemment sans fin. D'ailleurs, Carla Del Ponte s'est retirée cet été du dossier de la Syrie, voyant qu'il n'y avait pas de volonté politique de trouver un remède à la situation actuelle.
Alors on a aussi, des pays qui ne sont pas des dictatures, qui ne sont pas des pays en guerre, mais qui sont dans une espèce d'entre-deux, qui sont à la fois des dictatures, comme l'Érythrée, ou bien l'Afghanistan, qui est dans un état de guerre permanent depuis une trentaine d'années. Et ce sont ces gens, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire c'est ceux que je vois passer à Calais, c'est-à-dire des gens qui visent l'Angleterre pour des raisons familiales, culturelles, parce qu'ils parlent l'anglais, parce qu'ils se disent aussi que là, ils auront une possibilité de travailler rapide, et parce qu'ils n'ont pas une très bonne image de la France. Alors pour revenir à votre question, les Syriens, par exemple, viennent très peu en France. Et dans la jungle de Calais, on n'avait pas énormément de Syriens, mais on avait aussi, par exemple, beaucoup de Soudanais. Et le Soudan aussi est en proie à une guerre civile terrible. Et voilà. Donc, effectivement, il y a des pays en guerre, mais il y a aussi des pays qui souffrent de une dictature féroce comme l'Érythrée.
Et après, bien sûr, des pays où ils sont concernés par le trafic d'humains déjà sur place, et ils se retrouvent confrontés à un nouveau trafic qui est perpétué. Par exemple, on pense à la Libye.
Oui. Alors, en Libye, vous avez des gens qui vont aller se rendre en Libye. Par exemple, je pense aux gens de l'Afrique de l'Ouest, des Guinéens, par exemple, qui se rendent en Libye en espérant encore, parce que la Libye n'a pas une si mauvaise image, en espérant encore y trouver une situation, pouvoir y travailler, et se retrouvent piégés dans un pays qui est dans un total chaos, où il n'y a pas de...
Clanique aussi.
Oui, où il n'y a pas vraiment d'État, où il y a plusieurs directions. Et Et ce que racontent les gens, alors, ce que racontent les gens que moi j'ai rencontrés, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar et c'était déjà un cauchemar à l'époque de Kadhafi pour d'autres raisons, parce qu'il gardait les gens en rétention éternelle et les prisons étaient des lieux d'extrême violence, voire des mouroirs. Et on a l'impression que les choses sont en train de se perpétuer avec, par ailleurs, à la tête de l'État et à la tête de la police, des gens qui sont à la fois passeurs et qui organisent aussi la répression du trafic. Donc il y a énormément d'ambiguïté en Libye.
Et la condition des femmes est particulièrement prétéritée parce qu'elles sont objets sexuels, elles sont esclaves domestiques, enfin, elles subissent tous les sévices.
Alors, c'est très difficile d'être un migrant quand on est un homme, mais c'est bien plus difficile encore quand on est une femme ou quand on est un enfant. Les problèmes et les violences sont décuplés. Donc, certaines femmes se choisissent un homme pour le voyage qui sera leur protecteur, mais qui en réalité...
Les tiennent sous le joug.
Oui, aussi, c'est-à-dire, voilà, on va trouver un mec qui est plus ou moins sympa. J'ai rencontré une femme, moi, qui m'avait raconté ça, qui m'avait dit j'ai épousé un mur protecteur pour me protéger pendant le voyage. Voilà, elle a eu un enfant avec lui. Voilà. C'est des situations où les femmes essayent de finalement se mettre dans la moins pire des situations pour lutter.
Vous avez énormément écrit justement sur ceux qui se précipitent dans le Nord-Pas-de-Calais pour espérer la traversée. Qu'est-ce qui les attire? Quelle est l'image? Est-ce qu'elle est erronée? Est-ce qu'ils ont une image passéiste un peu de l'Angleterre? Parce que les conditions en Angleterre, elles ne sont pas si excellentes, à moins de retrouver un parent.
Alors les conditions en Angleterre ne sont pas si excellentes, c'est vrai. Mais il y a du très dur et du très positif. Et moi, j'ai rencontré les deux situations quand j'y suis allée. J'y suis allée plusieurs fois pour retrouver des gens que j'avais rencontrés à Calais, que j'avais suivis, avec qui j'avais sympathisé. Et vous avez des situations où vous avez des gens qui se retrouvent dans des zones grises, qui vivent au noir, qui n'ont aucun statut, c'est-à-dire qu'ils peuvent tomber malades et se retrouver seuls au monde, qui louent un appartement au noir, qui travaillent au noir, qui vivent au noir, sans aucune sécurité. Et par ailleurs, vous pouvez avoir des gens qui très vite ont des papiers, très vite ont du travail, qui travaillent beaucoup, qui ont une vie pas facile parce que l'exil est toujours difficile, mais qui malgré tout, pour ceux que j'ai rencontrés, arrivent à se faire une petite situation. J'ai rencontré par exemple dans la jungle de Calais un styliste iranien et qui exerce actuellement à Londres son métier de styliste. Alors évidemment, c'est pas Azedine Alaïa, mais il travaille dans une jeanerie où il customise des vêtements, des jeans et des vestes en jean, et qui sont fabriqués en Turquie et qu'il customise en Angleterre dans un petit atelier où il fait tout avec ses collègues, c'est-à-dire qu'il répare les machines, il fait du stylisme, il fait des heures extrêmement longues, mais il se dit content et content de faire son travail. Voilà. Il n'est pas très bien payé, mais...
Il y a une sécurité de l'emploi.
Alors ça, on ne peut pas vraiment le dire ça, parce que c'est... En tout cas, il a un travail et il n'a pas un travail au noir. Mmh. Voilà. Maintenant, son grand projet, c'est de faire venir sa femme et sa fille, qui sont restées en Iran. Et donc, c'est une grande source d'angoisse. Mais par ailleurs, quand on arrive, et la grosse différence entre la France et l'Angleterre, c'est que quand on arrive en Angleterre, quand on se déclare aux autorités en disant « voilà, je veux demander l'asile », alors il y a deux solutions. Soit vous faites partie de la mauvaise catégorie, c'est-à-dire par exemple vous êtes afghan, et auquel cas vous risquez d'être renvoyé au pays direct. Soit vous faites partie d'une bonne catégorie, par exemple les Iraniens, par exemple les Érythréens, et là, on va vous donner un toit. vous allez vivre dans une petite maison avec d'autres demandeurs d'asile. On va examiner votre dossier et vous allez avoir l'asile ou pas. Et si, et au moment où la décision est prise, dans les semaines qui suivent, on vous dit maintenant dehors. Et tu trouves ton... Maintenant, c'est à toi de te trouver du boulot, c'est à toi de te trouver un logement. Donc les gens sont assez paumés. Et souvent, d'ailleurs, ils vont vivre chez des copains qui, eux-mêmes, sont demandeurs d'asile. Donc ils vivent peut-être, pour certains, à plusieurs dans la même chambre, en attendant de trouver... c'est des situations précaires et des grandes situations d'angoisse. C'est-à-dire que ce qu'ils me disent, c'est que quand ils arrivent de l'autre côté, ils n'ont aucun... Alors qu'ils ont galéré pour passer de l'autre côté, ça a été très dur... Et chaque fois, je leur dis, alors est-ce que tu étais heureux quand tu es arrivé en Angleterre? Ils m'ont dit, j'ai pas eu le temps. Parce que, c'était, en gros, c'est le début des problèmes. C'est d'autres problèmes qui commencent. Donc voilà, c'est mitigé. Et autre chose, les Afghans dont je parlais tout à l'heure, mais d'autres gens, par exemple les Vietnamiens, ce sont des gens qui ne se déclarent pas aux autres, pas tous bien sûr, mais ceux qui n'ont pas véritablement un dossier à présenter, ils ne se déclarent pas aux autorités. Il y a énormément d'Afghans qui passent en Angleterre, il y en a énormément actuellement à Calais, et qui ne se déclarent pas aux autorités, c'est-à-dire qu'ils sont partis pour vivre 15 ans, 20 ans, en exil, au noir. Ça, c'est une réalité. Et c'est plus facile, entre guillemets, de se glisser comme ça dans les interstices du pays aux États-Unis, en Angleterre, en Grande-Bretagne, qu'en France. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens tentent de passer. Pour ceux qui savent qu'ils ont très peu de chances d'obtenir l'asile, ils ne demandent pas.
Par rapport à la France, il y a une ambiguïté quand même. On voit que la France, elle n'est pas très apte à gérer ce flux de migrants, y compris dans des pays qui lui appartenaient dans le passé. Par contre, quand il s'agit d'intervenir dans ces pays, quand il y a le moindre souci, on pense au Mali, par exemple, elle intervient très facilement et très rapidement.
Oui, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que...
Une ingérence?
Ça veut dire, en tout cas, pour... Enfin, moi, je me prononce pas sur... Parce que je suis pas du tout spécialiste de politique étrangère. Mais en tout cas, pour ce qui est du rôle de la France et de son implication dans l'accueil des migrants, il y a clairement un manque de volonté. C'est-à-dire qu'on se dit, plus ce sera compliqué, moins ils auront envie de venir. Donc faisons en sorte de s'en occuper le moins possible, faisons semblant de nous en occuper, et du coup les gens n'auront pas envie de venir. Le résultat, ça donne des gens qui s'amassent par exemple à la porte de la chapelle ou qui s'amassent dans la jungle de Calais. C'est monté jusqu'à 10 000 personnes quand même,
et, dans des conditions sanitaires effroyables.
Des gens qui finissent par j'ai beaucoup de témoignages, on me dit les gens deviennent fous. Parce que ce qu'on n'envisage pas, c'est que les gens ont fui des situations traumatiques, qu'ils ont traversé plusieurs pays dans des situations qui sont également traumatiques. Ils ont perdu des gens. Il y a des gens qui ont vu mourir leurs copains sur la route. Et donc, ils arrivent dans un état de stress et ils doivent être accueillis, entourés, apaisés. Et c'est exactement le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on leur fait savoir, on leur fait comprendre qu'ils sont indésirables. Et donc du coup, il y a parfois, et même trop souvent, des gens qui finissent par avoir des réels problèmes psychologiques. Ça peut tourner à la folie. Voilà. Et donc ça donne une image terrible de la France auprès des réfugiés, auprès des demandeurs d'asile. Ce qui fait que ceux qu'on voit à Calais qui veulent passer en Angleterre nous en parlent aussi en disant... mais la France, c'est pas un pays d'accueil en gros, mais ça n'empêche pas que d'autres continuent de venir et sont super mal accueillis. C'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour nous, c'est dramatique pour leurs enfants, parce que je pense qu'on est en train de construire de la rancœur, de l'amertume, et ça, la France ne l'anticipe pas. Elle regarde à très très court terme. Et de manière, je trouve, puérile. Voilà, c'est une...
Immature, en tout cas.
Immature, puérile, voilà, le mot est... Oui, c'est ça, je suis d'accord.
Et puis, quand on vous lit, on voit aussi qu'il y a des sévices qui sont pratiqués justement dans la jungle de Calais, dans ces camps, qui a des... Il y a eu la pratique, par exemple, du gaz poivre sur les migrants, par la police. Enfin, il y a des pratiques qui appartiennent normalement à une autre époque.
Alors... Alors, je précise un truc sur le gaz poivre, c'est que je pense qu'il y a dû avoir une confusion. Dans les témoignages d'immigrants, ils disent « pepper gas ». C'est le Human Rights Watch qui avait fait l'enquête. Et donc, Human Rights Watch a écrit « gaz poivre ». Or, le ministère de l'Intérieur français avait beau jeu de dire « non, pas du tout, nous n'utilisons jamais le gaz poivre ». En réalité, c'est du gaz lacrymogène. Mmh. On sait, par des témoignages extrêmement nombreux, et même des vidéos qui ont été tournées, que l'usage du gaz lacrymogène est extrêmement fréquent, y compris dans des situations où le CRS n'était pas en danger. On a ce genre de films hein, qui ont été pris où on voit des CRS qui passent à côté, par exemple, d'une tente et qui ouvrent la tente et qui mettent du gaz à l'intérieur histoire de s'amuser, quoi. Alors, ça, c'est une réalité. Par ailleurs, ce qu'on a constaté aussi dans la jungle de Calais, c'est que les gens essayaient d'en sortir la nuit pour aller tenter leur chance sur la rocade et placer des troncs d'arbres, des branchages, des caddies, tout ce qui leur passait sous la main pour arrêter, pour provoquer des embouteillages, pour pouvoir arrêter les camions, pour pouvoir monter dans les camions. Donc c'est un moment violent pour tout le monde, y compris pour les chauffeurs routiers qui sont paniqués de voir arriver des gens comme ça sur la rocade alors qu'ils sont en train de conduire la nuit. Donc ça c'est une chose, mais ça c'est une chose qui est provoquée par la fermeture de la frontière. Et par le fait que et par l'étanchéité, parce que en fait depuis toutes ces années la frontière s'est de plus en plus étanchéifiée et donc ça provoquait des sortes de batailles en réalité et de bombes, on peut dire de bombardements même si c'est pas des bombes, mais en tout cas il pleuvait du lacrymogène sur la jungle de Calais à certaines nuits, y compris dans des zones où vivaient des enfants, des gens tout à fait pacifiques, des femmes, enfin, vous voyez, des gens qui n'étaient pas sortis de leur tente ou de leur cabane pour aller sauter sur la rocade. Donc finalement, c'est tout le monde qui trinquait. D'ailleurs, parmi les migrants, il y avait des gens qui étaient très en colère contre ces petits groupes de jeunes gens qui tentaient leur chance la nuit parce qu'ils disaient, en fait, tout le monde mange du lacrymogène à cause de ça. Donc ça, c'est une chose.
Par ailleurs, ça crée aussi des tensions entre les migrants.
Bien sûr, ça crée des tensions entre les migrants. Et puis, il y a des gens de toute culture qui étaient dans la jungle de Calais. Et par ailleurs, vous parlez de ces vices, c'est également un lieu dangereux, forcément, nécessairement. La nuit, il n'y a pas... Il n'y a personne pour protéger les faibles.
Les carences alimentaires, matérielles provoquent aussi des exactions entre eux.
Il y a ça, mais il y a également, vous savez, dans une population donnée, dans une population donnée, il y a des gens qui peuvent prendre le pouvoir sur les faibles. Et ces gens-là n'avaient pas de frein, en fait. Quand on est dans une zone grise comme ça d'illégalité, et ben, c'est forcément les faibles qui trinquent, donc les enfants, les femmes, une fois de plus. Dans la jungle de Calais, il y avait des mafieux, enfin des passeurs, des gens qui étaient là pour faire de l'argent et qui n'avaient aucun scrupule. Il y avait des gens violents. C'est-à-dire que cette frontière fermée est une source de violence à tous les niveaux. Les faibles qui trinquent, et en particulier les enfants et les femmes. Il y avait des gamins, et il y a toujours d'ailleurs aujourd'hui des jeunes gens, des enfants, qui sont seuls.
Et déscolarisés depuis des années.
Déscolarisés depuis des années, ça, bien sûr. Mais vous pouvez rencontrer un gamin afghan qui vous dit, vous lui demandez « Est-ce que tu es tout seul ?» Et il vous répond « Non, je suis avec mon oncle. » Et vous tournez la tête, et l'oncle, il a 15 ans. Vous voyez, donc voilà, dans ce genre de situation, vous pouvez bien sûr tout imaginer le pire. Et ces enfants, il y a des enfants qui sont réellement qui se comportaient dans la jungle de Calais comme des enfants des rues, c'est-à-dire on sentait qu'ils étaient perdus, traumatisés, sans limite, ayant du mal à être calme, ayant du mal à être tranquille et tenter toutes les nuits le passage, partir seul, enfin c'est cauchemardesque. Ces enfants de 12, 13 ans qui partaient seuls la nuit pour grimper dans les camions et qui réussissaient d'ailleurs à passer. voilà, pour retrouver leur famille, alors que on aurait pu organiser, alors ça s'est fait à une échelle minuscule, on aurait pu organiser des passages
humanitaires
pour ces gamins qui avaient de la famille de l'autre côté. Ça s'est fait, mais très très peu, et c'est absolument dramatique pour ces jeunes. On se demande vraiment ce qu'ils vont devenir, parce qu'ils ont vécu plusieurs années de traumatisme à un âge où vous avez juste besoin de... À l'adolescence, vous avez juste besoin de, d'être encadré, d'être aimé. Donc c'est des gamins inquiets, instables, qui peuvent devenir violents, et en tout cas extrêmement malheureux.
Mais les ONG et les associations font beaucoup. Est-ce que leur appel au secours, parce que des fois elles se manifestent pour dire on a vraiment besoin d'une prise de position claire des autorités, est-ce qu'elles ne sont absolument pas entendues?
Les associations ne sont pas entendues, non. Et c'est des grandes associations, hein. c'est pas des groupuscules, c'est pas des doux rêveurs
et des utopistes,
voilà, exactement. Ce sont des associations comme Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, le Secours Catholique, voilà, des gens qui ont pignon sur rue et qui disent arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez de regarder ailleurs en vous imaginant que plus on rendra le passage difficile et moins les gens auront envie de venir, parce que ça ne marche pas. Cette théorie de l'appel d'air, cette théorie du point de fixation, cette obsession des différents gouvernements de droite et de gauche, c'est un échec cuisant depuis pratiquement une vingtaine d'années. Hein. Et donc ces associations réclament, alors à des degrés divers, elles n'ont pas toutes les mêmes positions, mais en gros, de faciliter un passage, des voies légales de passage, et d'autre part, de pouvoir venir en aide en attendant à ceux qui en ont besoin. Or, leur travail est totalement saboté par l'État.
Entravé, en tout cas.
Voire saboté, c'est-à-dire que aujourd'hui, les associations me disent... quand on donne un sac de couchage, quand on donne une bâche, parce qu'ils ne donnent même pas de tente pour que les gens soient le plus discrets possible, on sait que dans les jours qui viennent, voire dans les heures qui viennent, ça sera détruit. Donc on a affaire, voilà, à des gens qui sont pour beaucoup des mineurs actuellement à Calais. Et quand ces associations leur viennent en aide, cette aide est sabotée. Détruite par les représentants de l'État, alors que de laisser ces gens dans cette situation, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc on est vraiment dans une situation inacceptable du point de vue de nos valeurs à nous, hein, du point de vue de nos valeurs à nous, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme est bafoué, voilà.
Et la France était censée le représenter, justement les droits de l'homme par excellence.
Ben oui,
par son histoire.
Voilà. Et alors j'ai entendu là sur France Culture il y a quelques jours un travail d'une journaliste. Il y a une journaliste du Temps qui a été arrêtée du côté de Briançon, une journaliste suisse, et puis un journaliste français qui a été aussi empêchés de travailler, on va dire. Et ces gens nous disent que en pleine nuit, dans la montagne, par des températures négatives, la police française a laissé des enfants dehors pour qu'ils puissent, enfin pour les a refoulés vers le territoire italien. Voilà, on en est là. C'est la police française qui tranquillement pratique ce genre de choses. Et d'après ces deux journalistes, eux l'ont constaté parce qu'ils l'ont vu, mais d'après tous les témoignages qu'ils ont, c'est quelque chose de courant. Voilà, on a des mineurs qui sont laissés la nuit dans les montagnes françaises, dans le froid, par des températures négatives, seuls. Ils n'ont pas secouru comme ils devraient l'être, puisque quand vous êtes mineur, par définition, vous n'êtes pas en situation irrégulière. Même si vous n'avez pas de papier, vous devez être secouru.
Alors Aïdé Sabéran, malheureusement, je dois vous libérer. C'était un plaisir de parler avec vous et puis on continuera à vous lire parce que, bien sûr, vous êtes au fait même du sujet.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir écoutée. Bon, alors on a